Il a plongé dans le rêve en explorateur de notre fort intérieur.
J'ai découvert de nouvelles et importantes données à propos de l'inconscient dans la vie psychique. Le rôle des fortes envies instinctuelles, et ainsi de suite. De ces découvertes est née une nouvelle science, la psychanalyse.
Prénom ?
Sigmund.
Nom ?
Freud.
Date de naissance ?
Le 6 mai 1856 à Freiberg, aujourd'hui en République tchèque, à l'époque dans l'Empire austro-hongrois. La famille va s'installer à Vienne, la capitale, en 1860.
Ses études ?
Docteur en médecine en 1881. Première spécialité, physiologie et neurologie. Première publication, les testicules de l'anguille et la cocaïne.
Mariage ?
Avec Martha, 1886. La même année, il ouvre son cabinet à Vienne.
Et ce sont alors les débuts de la psychanalyse ?
D'abord, il a pratiqué l'auto-analyse à partir de 1895. Le terme « psychanalyse » apparaît en 1896 et le premier congrès international de psychanalyse se tiendra en 1908 à Salzbourg, le dernier auquel assistera Freud à Berlin en 1921.
Quel est son maître livre ?
L'interprétation du rêve en 1900, qui va connaître moult éditions et révisions.
Il est atteint d'un cancer ?
Un cancer de la mâchoire se déclare assez tôt puisque la première d'une série d'interminables interventions chirurgicales aurait eu lieu dès 1923.
Son exil ?
En 1933, les nazis ont déjà brûlé les ouvrages de Freud en Allemagne. Après l'Anschluss, son appartement est perquisitionné par la Gestapo. Ses amis réussissent à le faire passer à Londres, où il s'installe l'été 1938. Ses quatre sœurs seront assassinées dans les camps.
Sa mort ?
À Londres, le 23 septembre 1939, alors que commence la Deuxième Guerre mondiale.
France Inter. Intelligence Service. Jean Lebrun.
Sachez, monsieur Lebrun, que tout ce que vous dites est enregistré. Je vous écoute.
Freud, c'est un début. Ce n'est pas par hasard si la première édition de son interprétation du rêve paraît au tournant de 1899-1900, quand commence le XXe siècle. Mais si la psychanalyse est un début, elle est aussi une suite. C'est avec attention que Freud a considéré le long effort de collecte et les tentatives d'explication des rêves, contenté l'Antiquité puis le folklore. Même la croyance dans les rêves prophétiques ne lui paraissait pas devoir être écartée. Quand l'empereur Constantin pense dans son sommeil qu'il va se convertir, l'avenir tel que ses vœux le modèle relève d'un indestructible passé. Car c'est dans les replis du passé qu'il faut chercher l'interprétation sans pouvoir l'atteindre totalement. Sabine Procoris va nous accompagner aujourd'hui. Elle a écrit sur Freud et la psychanalyse qu'elle pratique elle-même un livre où elle parle de son insaisissable histoire.
Freud commence l'interprétation des rêves par un très très long chapitre où il se situe dans l'histoire de l'interprétation du rêve depuis l'Antiquité. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que, en quelque sorte, autant il donne de la valeur à la pensée des anciens sur le rêve et à l'opinion populaire, à l'opinion commune, autant il est beaucoup plus circonspect vis-à-vis des prétendus scientifiques sur le rêve. C'est-à-dire des personnes qui disent, au fond, le rêve, c'est pas rationnel, ce n'est rien d'autre qu'un désordre de l'esprit. En fait, ça ne signifie rien du tout. Lui, Freud, se place dans la filiation des anciens pour qui le rêve était un message des dieux en réalité. Sauf qu'à la place des dieux, il y a le monde à travers la vie psychique singulière, l'inconscient, et l'opinion public, l'opinion populaire qui considère que les rêves, oui, ils ont certainement un sens.
Tout de même, il reconnaît l'importance d'un certain héritage scientifique.
Tous ces gens qui ont tenu des carnets de rêves. Tout à fait, mais dans la méthode. C'est-à-dire pour Freud, la scientificité de la méthode, elle est fondamentale. C'est-à-dire la rigueur de la démonstration. Savoir également à quel endroit il faut poser des limites, c'est-à-dire savoir qu'on ne peut pas formuler quelque chose de définitif. Donc il y a une rigueur scientifique, il accorde beaucoup d'importance à tout matériau, si vous voulez. Mais en ce qui concerne l'idée qu'il y a un sens, que le rêve signifie quelque chose, nous raconte une histoire ou des histoires, ça, il le prend dans la tradition, je dirais, philosophique, littéraire et populaire.
Si une femme a rêvé qu'elle mangeait du cerveau de la tête d'un homme qu'elle connaît, elle sera son héritière et jouira de ses richesses et de tout son or. Si une femme a songé qu'un cheval s'unit à elle, elle sera violente avec son mari. Si un bouc s'unit à elle, elle mourra promptement. Si un âne s'unit à elle, elle sera punie d'une grande faute. Si elle met au monde un crocodile, elle aura beaucoup d'enfants. Si elle met au monde un chat, elle aura aussi beaucoup d'enfants.
Y a-t-il des clés ? Alors la formulation de la question, elle est trompeuse. Il faut la laisser au recueil fait autrefois à la hâte et qu'on appelait justement « clé des songes ». Ou aujourd'hui, au site internet qui prétend vous dire au réveil ce qui vous est advenu pendant la nuit. Le maître livre de Freud, l'interprétation du rêve, se fonde sur une expérience personnelle, autrement longue, tâtonnante, et qu'on peut dire aussi collaborative. Freud fait d'emblée appel à d'autres que lui. Au départ, le succès de son ouvrage peut paraître limité, mais il chemine tout de suite bien au-delà de Vienne. Et il connaît bientôt 1, 2, 5, 6 éditions avant qu'une version anglaise en 1930 ne le refonde. Jacques Le Rider.
C'est un objet d'abord monumental. C'est le plus gros livre de Freud. C'est ensuite un work in progress ininterrompu puisque à chaque édition, Freud a ajouter de nouveaux éléments, remanier certains passages, corriger, si bien que c'est un des textes les plus mouvants du corpus freudien. Freud y travaille encore dans les années 20, il relit à chaque fois, il relit très attentivement, et il augmente et il remanie. Et ce qui est prodigieux dans ce livre, c'est le fait qu'il se révèle en tant que narrateur de ses rêves, un véritable écrivain, je dirais de style naturaliste. Certains rêves pourraient avoir été écrits par un Zola, par les Goncourt, et en même temps un sens prodigieux de la construction théorique, de la création de concepts. C'est tout de même, de tous les livres de Freud, celui qui aura le retentissement le plus grand, le plus large, et qui fera pénétrer la psychanalyse dans tous les cercles de la littérature, des arts, de la philosophie et des sciences humaines.
L'interprétation des rêves, c'est le grand livre théorique de la psychanalyse. Et tout de même, c'est quoi la matière de ce livre ? Ce sont les rêves de Freud. Donc, il est un parmi nous. D'ailleurs, c'est ainsi qu'il s'adresse au lecteur au début de l'interprétation du rêve. Et il lui dit finalement, fais-toi lecteur, fais tienne mes préoccupations et accompagne-moi dans ce que j'explore. Et donc, à travers les rêves de Freud, qu'est-ce qui nous est offert ? Quelque chose qui est totalement universel, mais une universalité qui ne tombe pas du ciel, qui n'est pas abstraite, mais qui est pensée à partir du cas, de la singularité d'un cas. Et cette singularité d'un cas, elle peut nous toucher tous. et elles nous permettent de comprendre un certain nombre de processus qui sont communs à tous, parce que, non seulement parce que Freud nous adresse cela, mais parce que, eh bien, justement, cette singularité, elle est faite toutes sortes de... C'est Laplanche qui disait que la psychanalyse, c'est l'art d'accommoder les restes. De toutes sortes de restes qui sont les restes du monde, en fait.
Freud, publiant ses rêves, recommande, quand la lumière diurne les balaye, de ne négliger aucun reste, aucune anfractuosité. Les symboles peuvent apparaître de suite, assez clairs, dans celui qui va suivre un rêve publié en 1901. La table, par exemple, renvoie à la femme ou au mariage. Mais il ne faut pas s'arrêter à l'évidence, il faut chercher en dessous. Aussi, l'interprétation d'un rêve, même en apparence court, mérite-t-elle du temps, un temps que prend Freud, lui ici par Michel Bouquet.
Une réunion à table, ou à table d'hôte, on sert des épinards. Madame E.L. est assise auprès de moi et entièrement tournée de mon côté. Elle me passe familièrement la main sur le genou. Je fais un geste pour écarter sa main. Elle me dit alors:
vous avez toujours eu de si beaux yeux.
Et je distingue confusément quelque chose qui ressemble à un dessin représentant deux yeux.
Voilà le rêve, ou du moins ce que j'ai pu en noter. Je le trouve insignifiant, obscur et quelque peu surprenant. Madame E.L. est une personne avec qui j'ai eu de vagues relations d'amitié et n'en ai, que je sache, jamais désiré d'autre. Et je ne crois pas avoir entendu parler d'elle ces derniers temps. Plus j'y réfléchis, et moins il me semble intelligible. Je vais procéder maintenant à mon examen introspectif et noter les idées qui me viendront sans parti pris comme sans critique. Mais je m'aperçois bientôt que le travail est notablement plus facile si je décompose d'abord le rêve en ses éléments afin de grouper autour de ces fragments isolés les idées qui s'y rattachent.
Réunion, table ou table d'hôte.
Je me souviens d'abord de l'incident qui a clos la soirée d'hier. Comme je quittais une petite réunion en compagnie d'un ami, celui-ci offrit de prendre une voiture et de me déposer chez moi en disant:
j'aime assez l'invention du taximètre. On le suit des yeux, on s'occupe, on se distrait.
Quand nous fûmes en voiture et que le cocher eut disposé la vitre de manière qu'on pût lire le chiffre de 60 sous, je repris la plaisanterie. À peine avons-nous pris place que nous voici endettés. Le taximètre en voiture, c'est comme la table d'hôte. On s'y sent devenir avare et égoïste à force de songer à la dette qui augmente. Une autre idée relative à la table d'hôte. Il y a quelques semaines, me trouvant à table dans une auberge du Tyrol, je me mis violemment en colère contre ma femme parce qu'elle ne me paraissait pas assez réservée à l'égard de certaines personnes attablées à côté de nous dont je voulais à tout prix éviter le commerce. Je la priais de laisser ces étrangers et de s'occuper plutôt de moi. Et maintenant, je pense tout à coup au contraste entre l'attitude de ma femme à cette table et celle de Madame E.L. dans le rêve, qui est entièrement tournée vers moi. Autre remarque, ce détail de mon rêve est la reproduction d'une scène tout à fait analogue entre ma femme et moi à l'époque où je lui faisais secrètement la cour, la caresse sous la table. Elle me la fit en réponse à une lettre où je la demandais en mariage. Mais dans le rêve, ma femme est remplacée par une personne étrangère. E.L.
Madame E.L.
C'est la fille d'un homme à qui j'ai dû de l'argent autrefois. Force m'est bien de constater une relation insoupçonnée entre les éléments de mon rêve et les idées subites qu'ils éveillent. Suit-on la chaîne d'association qui part d'un élément du contenu, on se trouve bientôt ramené à un autre. Les idées que le rêve éveille en moi créent des liens qui ne sont pas discernables dans le rêve lui-même. Mais alors, les propos de Madame E.L. dans le rêve...
Vous avez toujours eu de si beaux yeux.
Ne signifie rien d'autre que tout ce qu'on en fait, c'est par amour pour vous. Tout vous a toujours été donné pour rien. Naturellement, c'est le contraire qui est vrai. Le bien qu'ils m'ont fait, mes amis me l'ont toujours fait payer cher. C'est pourquoi j'ai dû être frappé hier d'avoir eu gratuitement une course en voiture. Il est vrai que l'ami chez qui nous étions hier à dîner a souvent été mon créancier. Tout récemment encore, j'ai laissé passer une occasion de m'acquitter envers lui. Je ne lui ai jamais fait qu'un seul cadeau, une coupe ancienne avec des yeux peints tout autour. La coupe est une ochiale qui préserve du mauvais œil. Du reste, l'ami dont je parle est oculiste. Les chevaux de pensée que l'analyse m'a révélés, je pourrais en serrer plus étroitement les fils et montrer qu'ils aboutissent tous à un nœud unique. Mais, à côté des intérêts scientifiques, il existe des raisons privées qui m'empêchent de le faire dans un livre.
Le symbole n'est pas univoque et l'interprétation non plus. Un prochain dossier d'intelligence service, la semaine qui vient, présentera une autre théorie générale du rêve que celle de Freud. Elle est tentée actuellement par le sociologue Bernard Lahir, qu'on va entendre aujourd'hui dans le rôle du discutant. Il doute que le rêveur, fût-il Freud, puisse être longtemps un interprète crédible.
Je pense que le cas des interprétations que Freud propose de ses propres rêves montre que ça pose un certain nombre de problèmes. Je crois qu'on n'est pas le mieux placé pour parler de ses rêves. En revanche, on peut aider quelqu'un à parler de ses rêves, à voir ce qu'il y a derrière ces récits un peu incongrus et un peu bizarres que représentent ses rêves. Donc Freud a pris beaucoup de risques, hein, je pense. Et en même temps, il veut pas en dire beaucoup sur lui, parce que il termine souvent des interprétations en disant je ne peux pas en dire plus parce que ce serait gênant, etc. Donc on voit bien que là, il faudrait pouvoir en dire beaucoup plus et qu'il ne se livre pas, qu'il a peur de dire des choses qui seraient trop intimes, par exemple, sur lui.
Bon, c'est vrai, à la fin du récit de son rêve de la table d'hôte, Freud a laissé entendre qu'il lui fallait recéler certains secrets. Mais tout de même, combien de fois il a congédié le garde qui veillait à la porte de son esprit, osant le plongeon au plus profond. L'interprétation, c'est aussi l'exercice du dessaisissement de ce qui peut rassurer.
Monsieur Lebrun, comment Freud procédait-il pour la collecte des rêves ? Passait-il par l'écrit ?
Le travail de la psychanalyse est collaboratif et Freud exigeait de ses confrères qu'ils participent à des collectes, mais c'était plutôt l'échantillonnage des symboles oniriques qu'il attendait. On a parlé de la table, on pourrait parler de la chambre, du lit, etc. Ces symboles pouvaient être identifiés et organisés indépendamment des individus qui les rêvaient. Alors maintenant, ce qui concerne l'écoute des rêves individuels, Freud recommandait d'autres méthodes qu'écrites. Sabine Procoris.
En fait, Freud recommandait de ne pas prendre de notes. Pourquoi ? Alors moi, au début de ma pratique, assez soigneusement, je prenais des notes jamais pendant les séances. Mais par contre, après, je prenais des notes sur un certain nombre de séances. Parfois, c'est pas mal remarquer les notes parce qu'on fait des lapsus en écrivant. Mais bon, donc je faisais ça et puis je me suis vite lassée, d'abord parce que ça prend un temps de dingue. Et puis je me suis vite rendu compte, et notamment au cours des supervisions que j'ai faites à l'époque, maintenant c'est moi qui, c'est les gens qui viennent me voir, mais que c'était pas vraiment indispensable parce qu'il fallait vraiment faire confiance à la mémoire inconsciente. Et l'expérience venant, d'abord je me suis rendu compte au fur et à mesure que j'ai eu plus d'analysants que jamais je ne confondais les histoires. Bon, et puis surtout, quand il est arrivé quand même au fur et à mesure des années que des gens fassent un certain nombre de, enfin restent un temps, certain temps chez moi, puis suspendent ou terminent et puis reviennent me voir des années plus tard. Dès que j'entends leur voix au téléphone, tout me revient. Donc comment ça se fait ? C'est la mémoire inconsciente, j'ai jamais pris de notes. Je garde pas de dossier, pas tout ça. Enfin, moi, je fonctionne pas comme ça, en tout cas. Et je me rends compte aussi, au cours d'une analyse, que, mettons que quelqu'un me raconte un rêve, au début d'une analyse. Et puis voilà, ensuite l'analyse continue. Et puis 5 ans plus tard, ou 4 ans plus tard, ou on ne sait quand, il raconte quelque chose. Et hop, le rêve qu'il m'a raconté 3 ans plus tard me revient très très nettement à la mémoire. Donc ça peut m'arriver de lui dire quelque chose de ce rêve et ça lui revient ou ça lui revient pas. Mais en fait, ça montre bien que le type d'attention qu'on a dans c'est un drôle de truc, hein. Le type d'attention qu'on a dans ce cas-là, dans ce type de choses, est assez différent du type d'attention qu'on a quand on écoute un cours, une conférence. Et finalement, c'est une mémoire, je dirais, inconsciente.
Le point de vue autre de Bernard Lahir.
Alors, je doute beaucoup de ça. Vraiment, et ce n'est pas une attaque personnelle, je pense que le fonctionnement de notre mémoire fait que c'est extrêmement difficile de se souvenir non seulement des différents éléments d'un rêve, il y a certains rêves qui sont très très longs, très compliqués, avec plein d'incongruités. La mémoire n'est pas faite pour retenir des choses aussi labyrinthiques, on va dire. Et quand on rajoute à ça toutes les associations qui sont faites autour du rêve, ça n'est pas possible de retenir tout. Et ça me paraît vraiment au-dessus des capacités humaines que de faire ça. C'est pour ça que la science procède souvent par objectivation écrite. Hein, les ethnologues prennent des notes, les linguistes enregistrent les gens, les sociologues enregistrent des gens en entretien. Là, c'est pareil. On a besoin vraiment de prendre son temps et de travailler sur un matériau verbal qui est transcrit, objectivé dans l'écrit. Freud avait peur, comme beaucoup de psychanalystes, ont peur de l'écriture du rêve. Quand on leur propose des récits écrits, ils n'aiment pas particulièrement ça. Donc moi, je pense qu'au contraire, c'est beaucoup plus précis de faire écrire, même si après, ça demande à être précisé à l'oral. Et puis, j'enregistre aussi tous nos échanges, ce qui est très très différent par rapport à la cure analytique. J'enregistre nos échanges, je fait transcrire l'ensemble de nos échanges, et je travaille des heures et des heures sur des transcriptions pour être très précis sur ce que les gens m'ont dit concernant les différents éléments de leur rêve.
Je vais maintenant devancer la question dont je sens qu'elle va venir. Pourquoi, à cet instant précis du dossier d'intelligence service, la chanteuse Yvette Guilbert va-t-elle surgir ? Eh bien, elle appartient au passé de Freud, qu'il admirait et entretenait une correspondance avec elle. C'était au temps lointain des fiacres.
Le fiacre par Yvette Guilbert. Un fiacre à les trottinons, qu'un diapopla. Un fiacre à les trottinons jaunes avec un cocher blanc. Derrière les stores baissés, derrière les stores baissés, on entendit des baisers. Et puis une voix disant Léon, cacaille, hola. Et puis une voix disant Léon, mais tu me fais mal, autant l'Orient. Un vieux monsieur qui passait, cacaille, hola. Un vieux monsieur qui passait, s'écrit, mais on dirait que c'est ma femme dont j'entends la voix, qu'un diapopla. Ma femme dont j'entends la voix, il se lance sur le pavé en bois. Mais il glisse sur le sol mouillé, crac, il est escrabouillé. Du fiacre une dame sort et dit, qu'un diapopla. Du fiacre une dame sort et dit, oh chouette Léon, c'est mon mari. Y'a plus besoin de nous cacher, qu'un diapopla. Y'a plus besoin de nous cacher, oh donne ton sang sous à se cocher.
Intelligence, service. France Inter, Jean Lebrun.
Si je procède par association, Yvette Guilbert, elle a, à la fin de sa vie, procédé à la collecte de chansons populaires qui lui rappelaient sans doute ce qu'elle avait entendu dans les cours pendant son enfance et qui avait provoqué des émois sensuels. C'est en 1899 que Freud l'applaudit pour la première fois. Il est en train de préparer la première édition de l'interprétation du rêve.
Aucun autre groupe de pulsions n'a subi, du fait des exigences de l'éducation conduisant la vie civilisée, une répression aussi importante que les pulsions sexuelles. Mais aussi, chez la plupart des individus, les pulsions sexuelles s'entendent le mieux à se soustraire à la domination des plus hautes instances psychiques. Depuis que nous avons appris à connaître la sexualité infantile, qui est souvent si peu apparente dans ses manifestations régulièrement négligées et mal comprises, nous sommes en droit de dire que presque tout homme civilisé a conservé en un point quelconque la configuration infantile de la vie sexuelle. Et nous comprenons de ce fait que les désirs sexuels infantiles refoulés fournissent les forces pulsionnelles les plus nombreuses et les plus puissantes qui concourent à la formation des rêves.
Pulsion sexuelle, désir sexuel. Dans une note à l'édition de 1925 de l'interprétation du rêve, Freud désespère. Non, mes adversaires donnent au mot sexuel un contenu à sens unique, alors que le sexuel, c'est bien davantage pour moi. Sabine Procoris.
Le sexuel au sens freudien, ça ne se réduit pas, si vous voulez, à l'excitation sexuelle génitale. Le sexuel au sens freudien, c'est la manière dont sont érotisés nos liens au monde et aux autres d'abord. C'est-à-dire le sexuel, c'est juste l'intensité de la libido. C'est tout. C'est Freud, c'est bien plus vaste, si vous voulez, que simplement ce qu'on appelle le sexuel au sens des sexologues. C'est-à-dire ce que Freud appelle le sexuel, c'est le fait que ce qui gouverne en réalité d'emblée la vie psychique d'un petit humain quand il vient au monde, c'est le principe de plaisir. C'est la vitalité, si vous voulez. Comment dire, Spinoza appellerait le conatus, c'est-à-dire l'énergie, l'intensité qui fait qu'on, voilà, on veut, on désire quoi, quelque chose.
Et on désire particulièrement pendant l'enfance. Le rêve dispose de nos impressions d'enfance. Cette enfance qui ignorait la honte comme au temps du paradis perdu et qu'animait en revanche la plus belle des énergies.
Ce que dit Freud à la fin de l'interprétation des rêves, il dit ce que manifeste le rêve, c'est la force absolument increvable, un peu comme Beckett qui dit c'est increvable quoi, je ne peux pas continuer, je vais continuer, ils font continuer, je vais continuer, du désir infantile. Et le désir infantile, c'est toute cette incroyable puissance qu'il y a dans le fait de tout simplement parvenir à vivre et à survivre quand on vient au monde, au milieu de, grâce à l'amour de ses proches. Ça, c'est lié aussi à la façon dont s'accroche un enfant, quoi. Sa force de vie, enfin, un être humain d'une manière générale. Mais donc, pourquoi l'enfance? Mais parce que l'enfance, c'est d'abord, il n'y a pas encore beaucoup de refoulement dans l'enfance. C'est petit à petit que les refoulements se construisent. Je veux dire, les refoulements, ils ne sont pas là d'emblée. Ils se construisent petit à petit, et Dieu merci qu'ils se construisent au fur et à mesure de l'éducation. On voit bien comment un tout petit enfant de moins de 2 ans, il aime bien jouer avec ses excréments, etc. Il n'est pas du tout dégoûté, vraiment pas. Le dégoût vient comme un refoulement. Et pareil pour les vœux incestueux, ils sont à l'œuvre de façon très, très exhibitionniste et tout ce que vous voudrez, les vœux sexuels, je veux dire, tout petits, des tout petits enfants. Mais c'est que le refoulement vient mettre un peu de, vient cadrer un peu tout ça pour permettre effectivement de gouverner un peu ses propres pulsions, sa propre vie et d'entrer en rapport avec le monde environnant, quoi, d'une manière viable, si vous voulez. Mais donc l'enfance, même parce que c'est ce qui est avant le refoulement, la petite enfance en tout cas, c'est aussi le moment quand même des premières sensations. Et il n'y a rien de plus intense, de plus marquant que la, cette espèce de virginité des premières sensations, ça marque, quoi. Je veux dire, ne serait-ce qu'au niveau sensoriel.
Alors, dans les villages qu'il nous arrive de traverser, dit drôlement Freud, les gamins veulent tout savoir de nous, en même temps qu'ils soulèvent facilement leurs petites chemises, sans doute pour nous faire honneur. Ces désirs qui viennent de loin, de l'enfance, cherchent de plus en plus difficilement leur chemin dans nos rêves quand nous devenons adultes.
Nous diviserons les rêves en trois classes, selon leur comportement à l'égard de l'accomplissement de désirs. D'abord, ce qui figure sans voile, un désir non refoulé. Ce sont les rêves de type infantile qui deviennent toujours plus rares chez l'adulte. Deuxièmement, ceux qui expriment sous une forme voilée un désir refoulé. Cette classe comprend sans doute la très grande majorité de tous nos rêves qui ont ensuite besoin de l'analyse pour être compris. Troisièmement, les rêves régulièrement accompagnés d'une angoisse qui interrompt le rêve.
Monsieur Lebrun, Sigmund Freud parle-t-il d'accomplissement par le rêve, de désir, de souhait ou de vœux? Les traductions sont variées.
Ben oui, comment entendre le mot désir? Alors, si on prend la traduction française de l'interprétation du rêve de 2013 dans les œuvres complètes des Puffs, La Planche Bourguignon, ben, est utilisé le mot souhait. Sabine Procoris avance vœux. Notre vie d'âme formule des vœux. Il peut arriver que le non-accomplissement d'un vœu puisse entraîner l'accomplissement d'un autre. Des tendances sadiques vont ainsi se retourner en leur contraire, par exemple. Mais les instances psychiques se révélant inattendues, il arrive que l'accomplissement de nos vœux provoque du déplaisir. Sabine Procoris.
Je me souviens d'une personne qui, à un certain moment, quand elle allait en vacances à tel endroit, qui était un endroit de rêve, qui était un endroit de son enfance, pendant à peu près 15 jours, n'arrêtait pas de rêver de scènes de guerre et de bataille. Qui n'étaient pas des rêves très agréables et qui en même temps portaient une excitation de nature sexuelle en réalité, dans l'intensité, mais extrêmement grande. Mais qui étaient des rêves très angoissants en même temps. Et pour cette personne-là, c'était lié au fait que c'était l'endroit où elle allait était l'endroit d'une enfance avec un de ses parents, avec qui elle n'avait pas en réalité passé toute l'enfance parce qu'il y avait une séparation, enfin plein d'histoires. Et elle était en conflit, cette personne, très violent, à certains, beaucoup de moments de sa vie avec ce parent, qu'elle aimait aussi énormément. Donc c'était que des rêves de guerre. Comme dit Freud, il y a beaucoup plus de satisfaction à satisfaire une pulsion à l'état sauvage qu'un truc civilisé, harmonieux. Hein. Donc c'était des rêves de guerre, des rêves de bataille assez sanguinolents, assez désagréables, mais en même temps avec beaucoup d'excitation. Et c'était parce que quelque chose remontait effectivement de... Voilà. Il y a des vœux. Les rêves, en fait, c'est des accomplissements de vœux, plus que du désir d'une manière générale. Tous les vœux sont habités par l'énergie libidinale, mais il y a des vœux contradictoires.
Et les vœux de l'analyste, allez-vous demander, peut-être faudrait-il ne pas les oublier. Sabine Procoris évoque un souvenir qui est important pour elle.
Un analysant, en début des années 90, qui était malade et qui est mort juste avant l'arrivée des trithérapies. Et c'est un type formidable. Au cours de la cure de cette personne, à la fin, j'allais faire les séances chez lui. Il y a eu 3 ans incroyables avec cet homme. J'ai beaucoup pleuré quand il est mort. Il a gardé une dette d'une séance que j'ai trouvé une chose extraordinairement belle, en fait, parce que ça parlait d'un lien, en fait. Et un jour, vers le milieu de la, enfin, au milieu de ces deux années et demie, j'ai rêvé qu'il avait les cheveux tout blancs. Et je me suis dit, la vache, c'est quoi ça? Et j'ai très très vite compris ce que ça voulait dire. C'est que mon vœu, mon désir, qu'évidemment je ne pouvais pas réaliser, c'est qu'ils vivent très vieux, quoi. Donc évidemment qu'on rêve, enfin je veux dire, les rêves en fait c'est des accomplissements de vœux.
Je vous écoute. Ok, hier soir, j'y rêvais de mon père. Il faisait très très beau, très très chaud.
Inter. Intelligence, service.
Le moment n'est-il pas venu de nous expliquer comment l'inconscient se ferait un chemin par le rêve, Monsieur Lebrun?
Ah, si vous croyez que c'est si simple, en tout cas, ne vous fiez pas aux rêves qui apparaissent au réveil, parfaitement construits en apparence. À l'inverse, que faire de ceux qui semblent des pelotes de pensées indémêlables? Il faut chercher plutôt les moments de condensation quand toutes les images se rassemblent. Sabine Procoris aime parler de la vague, qui est une masse haute et forte et en même temps un ensemble incalculable de gouttes et de gouttelettes. La métaphore du métier à tisser peut convenir aussi. Parfois, une pression du pied fait courir les fils d'une trame qui se tisse dans notre fort intérieur. Mais enfin, tout ça ne suffit pas à tout dire.
C'est une bataille. Hein. C'est-à-dire entre les puissances de la censure et les puissances de ce qui est refoulé et qui ne cesse de presser pour venir à la venir dans la vie de la personne. Voilà, ce que Freud appelle les rejetons du refoulé. Hein. Voilà, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'il y a chez Freud un triple point de vue sur la vie inconsciente. Le point de vue topique, c'est-à-dire l'inconscient, le conscient, et le préconscient, et puis l'autre organisation qui se croise, qui est le moi, le ça, le surmoi. Donc dans le rêve, comment il se fraye le... D'abord, vous dormez dans le rêve. Donc quand on dort... Forcément, la vigilance consciente est ben justement en sommeil. Bon, et puis souvent, on intègre, on perçoit, si vous voulez, le monde extérieur, mais on l'intègre dans son rêve. Moi, je me rappelle au moment de la tempête de 99. Je dormais vers 7h du matin et c'était un bruit absolument fou. Et moi, j'avais vraiment envie de continuer à dormir. Et j'ai rêvé que des avions volaient à très basse altitude. En fait, j'ai transformé le bruit de la tempête en ça dans mon rêve pour continuer à dormir. C'est-à-dire que là, le désir était très clair, continuer à dormir. Mais comment ça se fraye? Ça se fraye parce que, un, le sommeil fait qu'on est un peu comme ça, on n'est pas là en train de se surveiller, forcément. Et donc, du coup, les barrières entre le conscient et l'inconscient deviennent plus fines, si vous voulez, plus ténues. Ainsi, un certain nombre de représentations non conscientes non consciente, pas seulement d'ailleurs parce qu'on refoule, oui parce qu'on refoule, mais aussi parce qu'on a autre chose à faire dans la journée, on est occupé. Eh bien, des images se forment et qui produisent en fait des scénarios qui se mettent, si je puis dire, à vous raconter toutes sortes d'histoires, en composant avec la censure quand même. Parce qu'on a beau être endormi, la conscience est vigilante, mais quand même le surmoi a quand même aussi des racines inconscientes très profondes. Et puis le moi, c'est-à-dire l'image de vous-même, sont là pour, enfin, censurer quand même un certain nombre de représentations du rêve. C'est-à-dire, si vous rêvez que vous assassinez allègrement tous vos voisins, c'est un rêve un peu gênant. Même dans le rêve, il peut y avoir un malaise. Ça peut être vécu comme un rêve d'angoisse ou un cauchemar. Ou pas, d'ailleurs. Donc, ça, le rêve est un compromis, c'est ce que dit Freud, un compromis entre toutes ses forces.
La censure. Sabine Procoris rappelle que l'analyste apparaît souvent dans le rêve du patient comme un chauffeur de bus. Vous savez, celui qui est abrité par des panneaux. Il est interdit de parler au chauffeur. Alors, qu'est-ce qui peut être dit? Quand? Comment la censure opère-t-elle? Dans un prochain dossier d'intelligence service, la semaine prochaine, Bernard Lahire développera une autre théorie générale du rêve qu'il est en train de mettre au point. Il y reprend le même vocabulaire que Freud, mais avec un autre point de vue sur la censure.
Le rêve a un langage, ou même plusieurs éléments du langage. Vous avez dans le rêve beaucoup de symboles, et des symboles qui ne sont pas universels, mais plutôt personnels. Vous avez des effets très bien décrits par Freud de dramatisation, d'exagération. Le rêve, vraiment, va au cœur d'un problème et l'exagère, le dramatise. Voilà. Beaucoup de métaphores, et notamment des métaphores littéralisées, comme on dit, c'est-à-dire qu'on prend des métaphores verbales à la lettre, pour représenter un certain nombre d'éléments qui seraient plus difficiles à mettre en scène si on n'utilisait pas ce moyen-là de la métaphore. Hein. Si on a rompu avec quelqu'un, eh bien on peut voir un pont s'effondrer, parce que le pont symbolise une communication entre deux points. Donc voilà, tous ces éléments-là, et puis on peut rajouter la condensation, etc., sont des éléments de langage du rêve. Et donc oui, Freud avait raison sur une bonne partie de ces éléments-là, simplement qu'il pensait que tous ces éléments étaient là pour contourner la censure. C'est-à-dire que son obsession à lui, c'était la censure. La censure est là, empêche l'expression directe des désirs, des souhaits qui sont inaccomplis dans la journée et qui essayent de s'exprimer dans le rêve. Et je pense que, alors là c'est ma grande différence par rapport à Freud, je pense que la censure, elle est la plus faible dans le rêve. La censure, nous la vivons en permanence dans la vie sociale. Ce sont des petites ou des grandes censures, mais nous ne pouvons pas dire n'importe quoi à n'importe qui. Je ne peux pas parler à mon patron, à mon chef de service, à ma femme, à mon fils, à etc. De la même façon que je peux m'exprimer dans un rêve. Parce que dans le rêve, je me parle à moi-même. Donc je peux dire n'importe quoi, je peux dire des choses taboues, il n'y a pas de censure en fait. Et c'est ça qui est étrange. Je dis d'ailleurs dans le premier volume de mon travail qu'au fond Freud a eu une mauvaise intuition sur la censure, mais que ça l'a conduit à trouver des choses qu'il n'aurait peut-être pas trouvées s'il n'avait pas cherché dans cette direction. Donc la censure est une hypothèse qui me paraît pas pertinente, mais ça lui a permis de mettre le doigt sur un certain nombre de procédés qui sont propres aux rêves.
Bernard Lahire est sociologue. On ouvrira dans notre prochain dossier chacun des deux volumes de son interprétation sociologique du rêve. Mais tout le monde est d'accord pour dire que notre activité individuelle, elle est aussi éminemment sociale. Tenez la série En thérapie, qui diffusée actuellement, rencontre un grand succès. Ici, la jeune Camille, elle est en dialogue avec son thérapeute. Et bien, tout de suite, elle va faire intervenir un personnage très contemporain de terroriste.
Je vous écoute.
Ok, hier soir, j'ai rêvé de mon père. Donc j'attendais mon père dans une chambre d'hôtel et quelqu'un a frappé à la porte. J'ai ouvert, c'était un homme. Il m'a demandé où était mon père et j'ai répondu qu'il allait pas tarder. Mais au moment où j'ai dit ça, j'ai compris que j'avais fait une énorme connerie. J'ai compris que cet homme était un genre de terroriste et qu'il allait s'en prendre à mon père. Mais c'était trop tard. Il s'est assis à côté de moi et ben, on a commencé à attendre mon père ensemble. Je savais qu'au moment précis où il rentrerait, le terroriste sauterait sur mon père pour le tuer. C'était horrible. Je savais pas quoi faire pour empêcher ça.
Qu'est-ce qu'il y a ?
Le terroriste, il avait vos chaussures. Alors ce serait vous ?
Est-ce que je peux vous suggérer une autre interprétation de votre rêve ?
Dites toujours.
Notre inconscient, parfois, fait endosser une intention ou un sentiment par quelqu'un d'autre que son vrai propriétaire, pour que l'idée soit acceptable pour le rêveur. Il est possible que votre invention m'ait choisi comme figure de terroriste pour permettre l'expression de quelque chose qui vous travaille, vous.
Qui serait ?
Faire du mal à votre père.
Et vous racontez n'importe quoi, hein. Mais c'est tout le contraire. Jamais je voudrais faire de mal à mon père.
Peut-être que vous souhaitez simplement le punir de quelque chose.
Et de quoi ?
Je l'ignore.
C'est une supposition.
Il n'y a pas besoin du secours d'une série télé pour comprendre que dans l'interprétation du rêve, il faut insister sur le rôle de l'événement. Sabine Procoris, encore une fois, elle sait d'expérience que le monde traverse le cabinet de la psychanalyste.
Mon cabinet est près de la place de la République. Je suis sur la rue. Et bien que j'ai des doubles vitrages, j'entends les manifestations, les slogans, les sirènes de police, etc., etc. Et évidemment que ça rentre et que ça alimente à certains moments un certain nombre de choses qui viennent dans une séance d'une manière plus ou moins. Et en plus, il est à côté enfin, ça a été quand même quelque chose au moment des attentats, parce que je suis à 50 mètres de la Bonne Bière et de l'autre, là, la Cosa Nostra. Donc, je passe tous les jours devant, quoi. Et donc, j'étais pas là au moment des attentats. Mais après, quand les patients venaient chez moi, je peux vous dire que c'était... Il y a quelqu'un qui est venu pour la première fois chez moi, deux jours après les attentats du 13 novembre, et qui avait été très près, pratiquement pris dans les attentats, et qui passait devant la Bonne Bière pour venir chez moi, quoi. Donc, enfin, je veux dire, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça résonne avec certaines choses particulières chez la personne, et que c'est un chemin, quoi. Mais en tout cas, au quotidien, je veux dire, tous ces trucs qui viennent de la rue, là, voir le clochard qui, depuis 15 ans, hurle dans la rue du Faubourg du Temple, etc., tout ça, ça rentre. Ça rentre comme les restes d'urnes dans le rêve, quoi. Et ça alimente la vie psychique.
C'était l'interprétation du rêve selon Freud et samedi prochain, l'interprétation des rêves depuis Freud. Freud a personnalisé le rêve, il importe aussi de le re-socialiser. Merci à Sabine Procoris, son livre « L'insaisissable histoire de la psychanalyse » aux Presses universitaires de France. Merci à Bernard Lahir, ses deux volumes sur l'interprétation sociologique du rêve à la découverte. Les lectures Hugues Kester, la prise de son Frédéric Quérou, de Ferguéry de la Maison de la Radio et de la Musique, les agents d'intelligence service Frédéric Martin et Franck Olivard, et la réalisation Audrey Ripouille.